OK, on va commencer notre 27e leçon et notre dernière leçon sur la sanctification. Alors, on avait commencé la semaine dernière que Christ est tout et on va poursuivre là où on était rendu au deuxième point. Le deuxième point qui nous dit que Christ est tout dans la Bible. Alors, bien entendu, quand on lit les Écritures, le Seigneur nous dit, quand il était avec les témoins d'Emmaüs, il a dit qu'on pouvait le trouver dans toutes les Écritures, commençant par le début jusqu'à la fin, en passant par les prophètes, que le Seigneur est présent partout dans les Saintes Écritures, bien entendu, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors, on sait que dans les Écritures, c'est Christ crucifié qui est représenté symboliquement dans les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament. Par exemple, dans Hébreux, chapitre 13, au verset 11 et 12, ça dit « Car quant aux animaux dont le sang est apporté au sujet du péché dans le sanctuaire, par l'entremise du souverain sacrificateur, leurs corps sont consumés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, afin qu'il sanctifiât le peuple par le moyen de son propre sang, a souffert hors de la porte. » Alors, il y a beaucoup de tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament, bien sûr, ça représente un aspect ou un autre de l'œuvre de Jésus-Christ ou de sa personne. Alors, ce fut maintenant aussi à Christ qu'Abel regarda lorsqu'il offrit un meilleur sacrifice que Caïn. On vient de voir ça dans notre étude sur la Genèse. Dans Hébreux 11, au verset 4, ça dit « Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Par elle, il reçut le témoignage d'être juste, Dieu rendant témoignage au sujet de ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. » Autrement dit, le fait qu'il offre lui un sacrifice sanglant, c'était une façon de voir symboliquement, dans le futur, l'œuvre de Jésus-Christ qui serait aussi sacrifié. Et ce fut aussi de Christ qu'Énoch prophétisa dans les jours précédant le déluge. On lit par exemple dans Jude, versets 14 et 15, « Mais c'est pour eux aussi qu'Énoch, le septième depuis Adam, prophétisa en disant, « Voici le Seigneur venu au milieu de ses saintes myriades pour exercer jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont impieusement commises et de toutes les paroles violentes qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Alors déjà, Énoch, ça fait dans l'Ancien Testament, on parle de lui comme le septième, donc c'était très proche du début. Il prophétisait déjà des choses qui étaient pour arriver très loin dans le temps. Ce fut aussi à Christ qu'Abraham regarda lorsqu'il habita dans des tentes dans la terre promise. On lit par exemple dans Jean, chapitre 8, verset 56, « Abraham, votre père, a été dans l'allégresse de ce qu'il devait voir mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent donc, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Il l'avait vu, bien entendu, par une compréhension spirituelle. Ce fut aussi de Christ dont Jacob parla à ses fils sur son lit de mort. Genèse 49, verset 10. Quand on parle de Shiloh, souvent on ne va pas voir les significations ou Silo. Ça signifie repos ou pacificateur. C'est une référence au Messie. Donc, quand il dit, Genèse 49, verset 10, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos, ou le silo, ou le Shiloh, dépendamment des versions, et à lui appartienne l'obéissance des peuples. » Alors, on a Jacob qui voit déjà des choses concernant Christ, il est beaucoup loin dans le temps. Et il en parlait déjà prophétiquement. Ce fut aussi le Christ qui fut la substance de la loi cérémonielle donnée à Israël par Moïse. Alors là, il faudrait aller faire une étude dans l'Ancien Testament et regarder ce qu'on a vu, qu'on a parlé l'autre jour, les types, toutes des choses, soit des personnes, soit des événements, ou soit des personnages qui représentent que Christ va accomplir plus tard, qui va devenir l'antitype. Alors, bien entendu, il y avait dans l'Ancien Testament ce qu'on appelait ce que les sacrificateurs faisaient, l'offrande du matin et l'offrande du soir. Il y avait l'autel dans le tabernacle dans Exode 25, à partir de 25 à 40, c'est toute la description du tabernacle. Alors, il y avait le propitiatoire, il y avait le personnage du souverain sacrificateur. Christ est devenu le souverain sacrificateur qui représentait l'ancien souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, représentait ce que Christ était pour faire éventuellement. Il y avait la Pâque dans Exode 12, la Pâque a été instituée, et Jésus, quand il a institué le repas du Seigneur, dans le fond, c'était le soir où il faisait la Pâque juive, qu'on peut lire dans Exode 12. Le bouc émissaire, beaucoup d'autres symboles et types, alors que ça représente. Le but de tout cela, c'est que la loi, parce que c'était comme un pédagogue, un conducteur et un guide. Donc, toutes les choses qui sont présentées, c'est pour nous amener, c'est comme un pédagogue, c'est un enseignant. Ces choses-là, c'était pour nous enseigner une facette ou un autre du Christ. Alors, ça dit dans Galates 3, versets 23-25, « Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés et enfermés ensemble sous la loi, en vue de la foi qui devait être révélée, de sorte que la loi a été notre instituteur en vue de Christ, afin que nous fussions justifiés en vertu de la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous l'instituteur. » Alors vraiment, toutes ces choses-là pointaient vers Christ, et il nous enseignait, un pédagogue, c'est quelqu'un qui enseigne. Ça nous enseignait un aspect ou un autre de l'œuvre de Jésus-Christ. Comme ça dit, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 et 4. « Et que tous mangèrent le même aliment spirituel, et que tous burent le même breuvage spirituel, car ils buvaient du rocher spirituel qui les suivait. Or, le rocher était Christ. » Voyez-vous, quand on lit ça dans l'Ancien Testament, on parle d'aliments, parce qu'il y avait la manne, il y avait l'eau qui sortait du rocher. Mais ici, le Nouveau Testament vient interpréter les symboles qu'il y avait dans l'Ancien Testament, parce que ça dit « Or, le rocher était Christ. » On a la même chose dans Jean, chapitre 3, versets 14 et 15, qui fait une référence au serpent des reins, quand le serpent est élevé. Alors, ça dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce fut aussi à Christ que les juges de l'Ancien Testament pointaient. Quand on prend le livre des juges, il y a toutes sortes de personnages qui libéraient les Hébreux en temps de guerre parce qu'ils étaient opprimés par leurs ennemis. Chacun des juges était vraiment des symboles qui pointaient vers Christ, que lui aussi serait le libérateur, mais sous une autre forme. Alors, on avait Josué, on avait David, on avait Samson, on avait Gédéon, on avait Jephté. Ce sont tous des emblèmes de Christ comme libérateur. Alors, quand on étudie le livre des juges, si on ne fait pas un rapport en lisant ces choses-là avec Christ, quelque part, on manque le bateau. C'est une belle histoire, oui, bien des choses à raconter spirituellement, qu'on prenne conscience, mais dans le fond, ça a pour but, tout nous parle de Christ dans les Écritures. Quand on a compris ça, là, quand on lit les Écritures, il faut toujours se demander qu'est-ce que ça vient me dire sur Christ, qu'est-ce que ça vient m'enseigner sur Christ. Alors, David aussi est un type dans l'Ancien Testament, un roi qui même s'il était oint et choisi, et il ne peut qu'ils ont donné à David l'honneur qui lui était dû, il a été méprisé, il a été rejeté par Saül et par toutes les tribus d'Israël, il a été persécuté, obligé de fuir pour sa vie. Mais si vous regardez ça, ça fait... Vous pourriez faire un parallèle entre la vie de David et la vie de Christ. Il faut toujours faire ça dans les Écritures. Quand on regarde une histoire et qu'on fait ça, on compare à ce moment-là, c'est toujours très intéressant. Aussi, tous les prophètes, à partir d'Ésaïe jusqu'à Malachie, quand on les prend un par un, ils nous parlent tous de Christ. Quand on dit que Christ est partout, alors regardez quand 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 et 11, « C'est de ce salut que se sont informés et soigneusement enquis les prophètes qui prophétisèrent touchant la grâce qui vous a été faite, s'enquérant pour quel temps et pour quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux faisait ces déclarations, rendant d'avance témoignage des souffrances prédites au Christ et des gloires qui les suivraient. Autrement dit, tous les prophètes nous présentaient Christ et les souffrances qu'il était pour connaître d'une façon ou d'une autre. Si on étudierait chacun des prophètes un par un, là, on verrait qu'il parle de certaines souffrances que Christ a eues, mais aussi des gloires qui le suivraient. Autrement dit, les effets de la mort de Christ auraient sur l'histoire de l'humanité en général. Et bien entendu, c'est dans le Nouveau Testament, ben là, Christ est omniprésent, il est partout, il est dans les Évangiles, et Paul, dans plusieurs épîtres, développe, autrement dit, la théologie qui a un rapport avec la venue de Jésus-Christ dans sa première venue. L'autre point qu'on va regarder, c'est que Christ est tout dans la religion de tout chrétien authentique. En disant ça, nous ne voulons d'aucune manière réduire le rôle de Dieu le Père dans l'élection ou le rôle du Saint-Esprit dans la régénération. Quand on dit que Christ est tout, bien entendu, on sait que Dieu est un Dieu trinitaire, donc à quelque part, Christ est tout parce qu'il est le centre, jusqu'à un certain point, du salut offert aux hommes. Alors, dans la sanctification, on est absolument convaincu de la parfaite harmonie qu'il y a entre les trois personnes de la Trinité pour amener les élus à la gloire. Par exemple, on lit dans Jean 6, verset 27, « Travaillez non à la nourriture qui périt, mais à la nourriture qui demeure pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Oui, Dieu. » Donc, on pourrait dire que Christ est à la chrétienté ce que le soleil est à la terre. Une belle image, je trouve. Christ aussi est tout dans la justification du pécheur devant Dieu. À travers Christ, le pécheur peut trouver la paix avec le Dieu saint. Seulement en Christ, Dieu le Père peut admettre en sa présence le pécheur. C'est à cause de Christ qu'on peut parler au Père. C'est à cause de Christ que le Saint-Esprit nous instruit, nous conduit, nous éclaire, nous enseigne. Éphésiens 3:12. Selon 11 et 12, selon le dessein des siècles qu'il a formé dans le Christ Jésus, notre Seigneur, dans lequel nous avons assurance et accès en confiance par le moyen de la foi. Alors qu'on parle de justification, Romains 3, versets 24 et 26, étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen du rachat qui est dans le Christ Jésus, que Dieu a d'avance établi propitiation au moyen de la foi en son sang. Et cela afin de montrer sa justice à cause de la tolérance des péchés précédents pendant le support de Dieu, pour montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, afin qu'il soit juste lui-même et justifiant celui qui a la foi en Jésus. Un mot qui est important dans les Écritures, c'est le mot propitiation. Propitiation, beaucoup de versions modernes ont écarté ce mot-là, ils l'ont même enlevé, il n'est plus là. Dans les versions, certaines, beaucoup de versions modernes n'est plus là. Propitiation, ça veut dire détourner la colère. Pour que quelqu'un puisse détourner la colère, c'est que Dieu nous dit que tous les pécheurs vont recevoir la colère de Dieu, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a accepté de détourner la colère, au lieu de l'envoyer sur nous, l'envoyer sur Christ. Alors, propitiation, ça veut dire détourner la colère. Quand on lit ça dans les Écritures, c'est bon de se rappeler de la signification de tout ça. Alors, lorsqu'un croyant examine attentivement ses voies, il constate très rapidement qu'il n'est qu'un pécheur. Il n'y a qu'un verdict. Nous sommes coupables, méritant l'enfer et la damnation éternelle. Comment donc pouvons-nous venir devant Dieu avec assurance et confiance? Ce n'est qu'au nom de Jésus et la foi en son œuvre que nous pouvons nous présenter devant Dieu, c'est le passeport céleste. Quand tu voyages, tu sais que si tu veux aller en France, ou tu veux aller en Angleterre, tu veux aller n'importe où. Si tu n'as pas de passeport, essaie pas de passer à l'aéroport parce que tu ne passeras pas. Et c'est la même chose, la foi en Jésus-Christ, si tu ne l'as pas, tu ne rentreras pas au ciel, ça c'est une chose certaine. Ça dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour obtenir un secours opportun. Trône de la grâce, ça veut dire que le Seigneur est sur son trône et il déverse des grâces sur ceux qui les lui demandent. On parle de secours opportun. Ça veut dire que dans le déroulement de notre vie, notre marche chrétienne, on va avoir des moments où on va avoir besoin de secours. Et Dieu nous dit, approchez-vous de moi, le Dieu, le Père, à cause de Christ, et je vais pouvoir combler, imaginez-vous les mots, assurance du trône de la grâce, s'approcher avec assurance. Alors que quand on dit que quelqu'un qui verrait Dieu et qui n'est pas préparé, il mourrait instantanément. Puis là, nous autres, tu dis, rentre dans la présence du roi de l'univers, puis fais comme si c'était ton papa. Tu sais, c'était disons un enfant, disons que ça serait un enfant qui rentre dans le bureau du président des États-Unis. Penses-tu que l'enfant, lui, il se dit, oh, ben là, si mon père est le président des États-Unis, il va faire attention. Là, enfin, il rentre, l'assurance d'un enfant. C'est ça que Dieu nous dit qu'on se devrait d'avoir envers le Père à cause de Christ. Sinon, on ne rentrerait pas dans sa présence comme ça. Dites-vous ça. Alors, Christ est tout aussi dans la sanctification du chrétien. Bien entendu, on ne diminue en rien le rôle du Saint-Esprit en disant ça. Mais Jésus nous dit, dans Jean 15, au verset 5, « Je suis le sceptre, donc il est l'arbre. Vous, les sarments, donc les branches. Celui qui demeure en moi. » Tu prends une branche et tu la coupes. Qu'est-ce qui va arriver? Elle va sécher, il n'y a rien à faire avec elle, elle ne gardera pas la vie. Et il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, ça dit, je puis tout dans le Christ qui me fortifie. Christ aussi est tout, un autre aspect, dans les réconforts du temps présent. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de souffrance dans nos vies, on en a tous, on a tous nos épreuves, on a tous nos difficultés, mais on trouve notre réconfort où? En Christ, dans les Écritures et dans la prière, bien souvent. Une âme sauvée connaît beaucoup de douleurs. Il y a un corps qui est frêle et faible. Il a aussi un cœur qui est devenu sensible au péché. Moi, je me souviens quand j'étais païen, il se passait toutes sortes de choses autour de moi, puis ça ne m'énerve pas plus que ça. Maintenant qu'on est chrétien, on voit des choses qui se passent autour de nous et le péché nous dérange. Notre cœur est devenu sensible. Quand on voit quelqu'un qui pêche ouvertement, ça nous fait mal au cœur. On aimerait des fois intervenir. On ne peut pas tout le temps, des fois, il faut le dire. Mais bien entendu, on sait que tous les chrétiens, sans exception en général, vont connaître leur part de deuil, leur part de désappointement, leur part de croix, qu'on appelle, quand le Seigneur dit « vous porterez vos croix ». On vit dans un monde où on doit supporter patiemment nos proches, qui, eux, ne sont pas sauvés, et que parfois, il faut exercer beaucoup de patience pour pouvoir les supporter, qui sont encore en convertis. Il faut endurer des persécutions. En avez-vous eu des persécutions depuis que vous êtes chrétien? Des persécutions, ce n'est pas toujours un peu comme emmener les gens en prison. Ça peut être te faire parler bête, ça peut te faire rire de toi, ça peut être toutes sortes d'affaires. On peut aussi aller jusqu'à connaître la mort physique. Où le chrétien va-t-il trouver sa force lorsqu'il traverse ces événements-là? C'est bien sûr dans Christ. Philippiens, chapitre 1, verset 29, allez jusqu'à 2, 1. Parce qu'il dit, parce qu'il vous a été donné gratuitement, et cela pour le Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ça, là, je suis à peu près certain, s'il y a un verset, c'est à peu près le verset qui est le plus mal compris des Écritures, ou en tout cas, un de ceux qui a été mal compris. Le Seigneur nous dit que c'est une grâce de lui appartenir. Mais il dit aussi, il nous a été donné, et cela pour le Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Souffrir pour Christ, c'est une grâce, une faveur non méritée. Et ça dit dans le verset 30, « En soutenant le même combat où vous m'avez vu et où vous entendez dire que je suis maintenant, si donc il y a quelque exhortation dans le Christ, quelques consolations d'amour, quelques communications d'esprit, quelques entrailles et quelques miséricordes. Il est en train de nous dire que toutes ces choses-là, la consolation, l'exhortation, la communication, la miséricorde, on peut avoir accès à ces choses-là à cause de Christ. Alors, bien entendu, dans le psaume 94, versets 17 et 19, ça dit « Si l'Éternel n'eût été mon secours, bientôt mon âme eût été couchée dans le lieu du silence. » Hey, c'est pas une petite phrase, ça, là. Ça nous dit que si Jésus-Christ n'était pas notre secours, David va jusqu'à dire « Je serais dans le lieu du silence. » Il parle de l'enfer. Autrement dit, le secours de Christ est essentiel et primordial dans nos vies. Alors, Christ aussi est tout dans l'espérance des temps à venir. On sait, on attend quoi maintenant, comme chrétien? La deuxième venue de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, non, on va plutôt aller dans Tite, chapitre 2, verset 13. « Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » On attend quoi? Patiemment, l'apparition de Christ qui va revenir. Maintenant, bien entendu, quatrième point, Christ sera tout au ciel, bien entendu. Ça dit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 23, « Et la ville n'a pas besoin de soleil ni de la lune pour y luire, car la gloire de Dieu l'éclaire et sa lampe, c'est l'agneau. » Alors au ciel, tout Christ va être tout. Découvrir Christ, l'aimer, le voir, et le Seigneur va sûrement nous donner qu'on comprenne tout ce qu'il a fait pour nous lorsqu'on était sur la terre. C'est sûr que ça va être Christ et tout au ciel, parce que quand on regarde, par exemple, Apocalypse, chapitre 5, versets 11 à 13. « Et je regardais, et j'entendis une voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Des milliers de milliers, ça fait combien, ça? Des millions. Des milliers de milliers, c'est des millions. Alors, ils sont en train de dire que tout ce monde-là, et qui disait à grande voix, « Digne est l'agneau qui a été égorgé, de recevoir la puissance et la richesse et la sagesse et la force et l'honneur et la gloire et la bénédiction. Et j'entendis toute créature qui est dans le ciel et sur la terre et sous la terre et ce qui est sur la mer et tout ce qui est en ces choses qui disait « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction et l'honneur et la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. » Alors c'est ça qu'on... Des millions de personnes qui vont découvrir en même temps les gloires du Seigneur. Autre chose, donc on va connaître la louange, bien entendu, dans le ciel. On va connaître aussi le service, parce que les Écritures nous disent qu'on va servir aussi. Apocalypse 7, versets 14 et 15. Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation qui ont lavé et blanchi leur longue robe dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de l'agneau. Et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône habitera avec eux. Bien entendu, qu'est-ce qui va être notre joie dans le ciel? Ça va être la présence de Christ lui-même, qui va être la réjouissance éternelle des habitants du ciel. Quand on lit, par exemple, Apocalypse 22, « Il n'y aura plus aucune malédiction, et le trône de Dieu et de l'agneau y sera, et ses esclaves lui rendront leur culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front, et il n'y aura point là de nuit, et ils n'ont pas besoin de lampe, ni de lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclaire et ils régneront au siècle des siècles. » Alors, bien entendu, ça va être la découverte de Christ, la découverte de Dieu dans chacune de ses facettes. Alors, on lit par exemple dans Colossiens chapitre 2, verset 9, « Parce qu'en lui, on parle de Christ, parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la déité. » Christ est au ciel Est-ce qu'il est là de son corps? Oui, parce qu'il est monté avec son corps. Et ça dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude, autrement dit, chacun des attributs de Dieu habite en lui corporellement. Et ça va être pour nous une découverte tellement extraordinaire. Alors, bien entendu, le Seigneur est notre souverain sacrificateur. Il est aussi notre médiateur. Il est notre rédempteur. Il est notre sauveur. Il est notre avocat. Il est notre berger. Il est notre médecin. Il est notre époux. Il est notre tête. Il est le pain de vie, la lumière du monde, le chemin, la porte, la vigne, le rocher, la fontaine, le soleil de justice, le garant, le capitaine, le prince de la vie, l'amen, le tout-puissant, l'auteur et le consommateur, notre foi, l'agneau de Dieu, le roi des saints, le merveilleux, le Dieu puissant, le conseiller, l'évêque de nos âmes. Et on aurait pu, certain, j'ai pas sorti tous les titres de Christ. L'autre jour, Lucien Marie, dans le salon, a dit, devine comment il y en a de titres de Christ, de noms qu'on donne à Jésus-Christ dans les Écritures. 102. Alors, j'en ai nommé quelques-uns, là, mais 102 noms, je suis pas sûr qu'il y a un chrétien qui les connaît toutes. On devrait les connaître toutes. On devrait les connaître toutes. Tous ces noms donnés à Christ dans les Saintes Écritures sont un sujet inépuisable de méditation, d'étude et d'admiration délicieuse pour nos âmes. Qu'on prendrait chacun des titres, là. Il y a 102 noms de Christ, on pourrait les développer et parler beaucoup de choses concernant Christ. Alors, on va terminer par trois applications. La première, Christ est-il tout pour chacun d'entre nous? Tu sais, quand Paul dit « Christ est tout », pour moi, vivre, c'est Christ. J'ai entendu plusieurs sermons là-dessus. Je ne suis pas sûr que les gens qui prêchent des fois comprennent vraiment la profondeur de ce verset. Pour moi, vivre, c'est Christ. Ça veut dire que tout ce que tu fais au cours d'une journée, tu le fais uniquement pour Christ, uniquement pour faire avancer sa gloire. Alors, est-ce que pour nous, Christ est tout? Et Christ, est-ce qu'on vit? Pour moi, vivre, c'est Christ. Est-ce qu'on peut dire ça sérieusement? Ne nous contentons pas de notions vagues et d'expressions vides concernant notre foi. Ne soyons pas de ceux qui se contentent d'aller à l'Église, de faire leurs devoirs religieux, de se satisfaire de ne pas faire de mal à personne, d'espérer que Dieu nous fera miséricorde, que Dieu pardonnera nos péchés et qu'il nous transportera au ciel lorsque nous mourrons. Ancrons très solidement notre foi et notre marche chrétienne dans la glorieuse personne de Jésus-Christ, et ceci de façon très concrète. Du matin, première chose qu'on se lève le matin, aller jusqu'à la dernière chose qu'on fait le soir, Christ devrait vraiment être continuellement présent dans nos esprits, dans nos actions. Et si ce n'est pas le cas, des fois, si on s'examine un peu sérieusement, on voit que ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Le trône de la grâce, on le demande à Dieu. Deuxième application, si Christ est tout dans votre vie, soyons vigilants pour ne rien ajouter à la perfection de son œuvre. Ça, c'est... Il y a beaucoup de monde qui cherche à ajouter par leurs œuvres des choses à Christ. Ne remplaçons pas Christ par l'Église, par nos œuvres, par les ordonnances, par les ministres de la parole ou les missionnaires, par notre bonté, par notre générosité ou par notre charité. Tout ça, là, c'est bien beau, c'est des sous-produits. Gardons les yeux fixés sur Christ lui-même. Ne donnons pas sa gloire à qui ou à quoi que ce soit. Que toute notre vie soit christocentrique. J'aime beaucoup cette expression-là, christocentrique. C'est centré sur Christ. Toute notre vie, ça devrait être centré sur Christ. Et troisièmement, pour ceux dont Christ n'est pas tout, sachez que si vous voulez être sauvés, vous devez passer par lui. Ne nous méprenons pas en faisant que le monde devienne notre tout, que la politique devienne notre tout, que la course aux honneurs et à l'argent devienne notre tout, que le plaisir devienne notre tout. Le larron sur la croix a agi intelligemment en confiant sa destinée éternelle dans les mains de Christ. Luc 23, verset 42-43, et il disait à Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu seras venu dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et quatrièmement, j'avais dit trois, mais il y en a quatre. Si Christ est tout pour nous, ne vivons pas en dessous de nos privilèges. On a des immenses privilèges comme chrétiens. On se devrait de toutes les utiliser, bien entendu. Alors, peu d'âmes comprennent ce qu'ils doivent au Seigneur Jésus-Christ. On pense qu'on le sait. Peu d'âmes comprennent jusqu'à quel point ils dépendent de Christ dans leur vie de tous les jours. Peu d'âmes sont capables de se sentir comme des enfants dans leur dépendance à Christ. Peu d'âmes apprécient l'amour que Christ leur porte malgré leur misère, malgré leur faiblesse et leurs innombrables manquements, et la constante disposition de Christ à les aider. Aussi peu d'âmes semblent avoir connu que leur paix, leur joie et leur force ne peuvent que se trouver qu'en Christ seul. Vivons donc nos vies en Christ, par Christ et pour Christ. Rappelons-nous constamment cette vérité qu'on lit dans Hébreux 12, 14. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors la sanctification, c'est un sujet important, parce qu'il y a un petit avertissement ici, là, que si on n'en tient pas compte, on peut avoir des méchantes surprises. Alors que la glorieuse personne de Christ devienne authentiquement tout pour chacun de nous, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.